VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, excellent réveil en notre compagnie sur VOA Afrique. Au micro, Nicolas Pineau et Anne Albertson, ce matin à la une de notre émission.
Pression accrue sur le pouvoir burundais pour reporter les élections. L'opposant Nyangoma appelle à une transition sans Pierre Nkurunziza.
Il veut forcer, mais le peuple ne veut pas de lui parce qu'il n'a plus le droit à un autre mandat.
Nouvelle tension entre Brazzaville et Kinshasa au sujet des Congolais expulsés de Pointe-Noire. La RDC va convoquer l'ambassadeur du Congo.
Rencontre très attendue ce mercredi à Conakry entre le président Alpha Condé et l'opposant Sélou d'Alain Diallo.
Ici, c'est la Guinée, et le président de la République, et le chef de l'opposition. Tout le monde est pour une Guinée paisible. Donc, je suis certain qu'ils s'entendront.
Comme tous les matins, vos rendez-vous habituels, la Minute Éco et le journal des sports, démission du président de la Lina Foot à Kinshasa. Le Togo a un nouveau sélectionneur. Mais tout d'abord, sur VOA Afrique, le journal.
À Bujumbura, les tractations diplomatiques se poursuivent pour faire accepter à Pierre Nkurunziza un report des élections. Toujours candidat à un troisième mandat malgré la tentative de coup d'État contre lui, le président burundais a annulé hier soir son adresse à la nation. Les détails avec Henri Francisque.
Sans explication, le discours du président burundais sur la radio-télévision nationale a été annulé. Il pourrait avoir lieu ce mercredi soir, mais rien n'est confirmé. Pendant ce temps, le ballet diplomatique se poursuit à Bujumbura. Pierre Nkurunziza a reçu hier le représentant des Nations Unies, Saïd Djinnit, ainsi que deux représentants du panel des sages de l'Union africaine, Edem Kodjo et Ibrahim Afal. Situation sécuritaire, tenue des élections et paysage médiatique burundais, tous les sujets qui fâchent ont été abordés. Le but, faire renoncer provisoirement le président burundais à organiser les élections, vu le contexte à haut risque que connaît le Burundi. Un message dans la lignée des recommandations de la CIRGL avant la venue de certains chefs d'État de la sous-région à Bujumbura. Tout est sous contrôle, répète à qui veut l'entendre Pierre Nkurunziza. Dans un message diffusé hier sur Facebook, la présidence burundaise affirme que le gouvernement ainsi que ses différents services n'ont pas et n'auront jamais de plan de vengeance contre les auteurs du putsch. Le général Godefroy Niyombare, numéro 1 du coup d'État, lui, est toujours en fuite.
Et sur le plan humanitaire, vive préoccupation de la Croix-Rouge. Nous sommes très inquiets des conséquences des violences qui secouent le Burundi, explique Georgios Giorgantas, chef de la délégation du CICR. Officiellement, plus de 110 000 Burundais ont fui leur pays depuis le début des violences, selon le Haut Commissariat aux réfugiés. Toutes les infos sur la crise burundaise à retrouver sur notre site web voaafrique.com.
Que se passe-t-il à Pointe-Noire? C'est la question à laquelle les autorités de la RDC aimeraient avoir des réponses. Pour ce faire, l'ambassadeur du Congo à Kinshasa va être convoqué pour s'expliquer sur la nouvelle opération de police contre les étrangers en situation irrégulière au Congo.
Les autorités de Brazzaville ont lancé jeudi dernier à Pointe-Noire, capitale économique du Congo, l'opération policière Mbata ya Bakolo, la gifle des aînés en Lingala, destinée à lutter contre l'immigration clandestine. 1150 personnes ont déjà été arrêtées, dont 642 ressortissants de la RDC. Une ONG locale et l'église ont déjà dénoncé des exactions et violations des droits de l'homme.
Hier, le porte-parole de la police de Pointe-Noire, Jules Moncala Tchoumou, a qualifié de fantaisiste ces accusations sur les violations et autres bavures. Antoine Boyamba, le vice-ministre des Congolais de l'étranger, est étonné que l'opération reprenne sans que Brazzaville en ait été informé à Kinshasa.
Nous apprenons que certains de nos compatriotes, surtout dans la ville de Pointe-Noire et de Dolisie aussi, sont sujets à des maltraitances. Bon, nous allons convoquer l'ambassadeur du Congo-Brazzaville ici à Kinshasa pour leur faire part de nos préoccupations. Mais nous gardons l'espoir que tout va s'arranger et nous espérons que tout finira par s'arranger. Mais le mieux, c'est de contacter le gouvernement de la République, nous contacter pour nous dire, voilà, nous voulons mener telle politique. Il y a certains de vos compatriotes qui sont dans le cas et nous allons prendre les dispositions utiles.
Le vice-ministre Antoine Boyamba, au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
En Guinée, c'est aujourd'hui que doit avoir lieu en principe la rencontre entre le président Alpha Condé et le leader de l'opposition, Sélou d'Alain Diallo. Initialement prévu le 8 mai, cet entretien permettra-t-il de résoudre les grandes divergences entre le gouvernement et les opposants en matière électorale? En tout cas, l'opposition accuse le pouvoir de violer un accord de 2013 fixant l'organisation des communales avant la présidentielle. Quant au président Alpha Condé, il s'en tient au chronogramme publié publié par la Commission électorale nationale indépendante.
Libérer Moussa Tchangari, c'est l'appel lancé par la société civile nigérienne hier, alors que le leader Alternative Espace Citoyen a été arrêté depuis lundi sans justification dans les locaux de la brigade antiterroriste à Niamey. Aucune explication pour le moment de la justice nigérienne, mais Moussa Tchangari avait récemment critiqué la situation humanitaire dans le sud-est du Niger, où l'armée nigérienne combat Boko Haram. Ibrahim Yori, de la société civile nigérienne.
Nous, acteurs et organisations de la société civile nigérienne, exigeons la libération sans condition et sans délai du camarade Moussa Tchangari et toutes les personnes arbitrairement arrêtées. Condamnons la tendance démocraticide du moribond gouvernement de la 5e République de plus en plus visible. Lançons un appel vibrant à une mobilisation générale pour stopper net la dérive autoritaire de ce gouvernement moribond, notoirement incapable d'accéder aux revendications légitimes du peuple nigérien.
Ibrahim Yori au micro d'Abdulrazak Idrissa, correspondant de VOA Afrique à Niamey.
À Ouagadougou, le nouveau dirigeant du parti de l'ancien président Compaoré appelle le gouvernement burkinabé à revenir sur le code électoral. Ce texte voté en avril qui empêche des proches de l'ex-président de se présenter aux élections d'octobre. Eddie Kamboigo, récemment élu à la tête du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, affirme que la paix demain dépend de la manière dont nous allons organiser ces élections qui doivent être correctes et inclusives.
Au Zimbabwe, selon Amnesty International, les radios indépendantes, autorisées dans la nouvelle constitution de 2013, sont toujours silencieuses. L'ONG appelle le pouvoir à ouvrir les ondes lors du prochain passage au numérique. Claire Morin-Gibourg.
Les constats d'Amnesty International sont accablants. Au moins 28 radios associatives attendent toujours. 10 autres stations ont obtenu le feu vert, mais sont toutes sous la coupe directe ou indirecte du pouvoir, y compris 8 radios locales qui n'ont pas encore commencé à émettre. Les émissions de Radio Capitale, la première radio privée du pays, furent de courte durée en 2000. Pareil en télévision, avec parfois des descentes musclées de la police dans les studios. La chaîne MABC, lancée en 1997, a été aussitôt fermée et Joy TV connaîtra le même sort en 2002. Du coup, les CD des humoristes de Zambezi News, un faux journal télévisé satirique, se vendent comme des petits pains en cachette. Le rapport d'Amnesty n'aborde même pas l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux. Toutefois, Harare continue de faire la sourde oreille.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, des milices chiites sont rassemblées ce mercredi aux portes de Ramadi en vue d'une contre-offensive pour reprendre cette ville irakienne aux djihadistes du groupe État islamique. De son côté, Washington affirme vouloir appuyer la nouvelle offensive, mais reconnaît que ce ne sera pas facile. Jean-Roger Billon.
Selon le colonel Stephen Warren, porte-parole du Pentagone, reprendre la capitale de la province d'Anbar est devenu un plus grand défi parce que les forces de sécurité irakiennes ont laissé derrière une vaste gamme d'équipements militaires américains quand elles ont fui dimanche plutôt que d'affronter les combattants de l'État islamique. Parmi ces équipements, des dizaines de véhicules militaires, dont des blindés, des transports de personnel et des pièces d'artillerie. Certains des véhicules sont encore dans un bon état. La chute de Ramadi a valu de vives critiques au président Barack Obama et à sa politique en Irak qui inclut des frappes aériennes contre les militants du groupe État islamique, mais pas d'engagement de troupes américaines au sol pour aider les Irakiens. Pour citer le républicain John Boehner, président de la Chambre des représentants, le plan du président ne marche pas. Il est temps qu'il propose une stratégie globale pour éliminer cette menace terroriste. Mais le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest, a renvoyé la balle au Congrès. Que contrôlent les républicains pour n'avoir pas donné au président Obama la nouvelle autorisation qu'il a réclamée pour faire face au groupe État islamique? Quelqu'un au Congrès devra à un moment donné assumer ses responsabilités et cesser de se plaindre tout le temps, a déclaré M. Earnest.
10 jeunes soupçonnés de vouloir rejoindre le groupe État islamique ont été arrêtés le week-end dernier à l'aéroport de Montréal. La gendarmerie royale du Canada affirme que l'enquête se poursuit et qu'aucune accusation n'a été à ce stade établie contre ces jeunes.
En Syrie, le régime de Bachar el-Assad a subi un nouveau revers en perdant son principal camp militaire dans la province d'Idleb, conquis par une coalition de rebelles djihadistes. Par ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné l'attaque hier contre l'ambassade de Russie à Damas, visée par des tirs de mortier qui n'ont pas fait de blessés.
Et au Yémen, 500 000 de personnes ont été déplacées depuis mars par le conflit où la coalition dirigée par l'Arabie saoudite a repris hier des frappes aériennes sur la capitale, Sanaa, toujours aux mains des rebelles chiites, Houthis.
C'est la fin de ce journal. Mercredi matin sur VOA Afrique, place à l'économie avec Félix Yepassis Zemmour.
Le changement climatique est perçu comme la troisième cause majeure de la faim et de l'insécurité alimentaire qui engendre criminalité, migration et dépendance vis-à-vis de l'aide sociale, relève un rapport du réseau catholique Caritas présenté mardi à l'Expo 2015 à Milan. Les Caritas d'Afrique subsaharienne ont aussi mis l'accent sur la faible productivité agricole. L'Asie a souligné le manque d'accès aux ressources des petits agriculteurs et la mauvaise gouvernance. L'Amérique latine a dénoncé la spéculation sur les produits alimentaires. Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord ont pour leur part mis en relief la lutte contre les conflits et le manque d'eau potable. Le centre commercial Westgate de Nairobi, ravagé en septembre par une attaque des islamistes somaliens d'Al-Shabaab qui avait fait au moins 67 morts, rouvrira ses portes en juillet selon sa direction. Le Westgate, un des plus luxueux centres commerciaux de la capitale kényane, était resté vide depuis l'attaque. Mais aujourd'hui, les entreprises commerciales sont de retour et le centre rénové pourra rouvrir dans le courant de juillet, a assuré son directeur Alex Trachtenberg. Le roi du Maroc entame à partir d'aujourd'hui une nouvelle tournée en Afrique subsaharienne avec des visites de travail et d'amitié au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon ainsi qu'en Guinée-Bissau. Rabat a entrepris une offensive diplomatique sur le continent et il s'agira de la troisième tournée du genre en trois ans pour Mohamed VI. À la clé de cette tournée, des signatures d'accords bilatéraux ainsi que le lancement de projets de coopération économique.
Merci Félix, nous accueillons à présent dans ce studio pour le journal des sports, Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Nicolas.
En football, démission hier du président de la LINAFOOT en République démocratique du Congo.
Le président de la Ligue nationale de football, Simon Kayoyo, a confié à nos confrères de Radio Okapi avoir démissionné pour des raisons personnelles. Selon Foot Africa, il entend ainsi attirer l'attention sur la situation d'incertitude qui prévaut sur le championnat national congolais, dont la phase retour pourrait tout simplement ne pas avoir lieu. La LINAFOOT attend en effet une dérogation du gouvernement congolais pour poursuivre la phase retour de son championnat au-delà du 31 mai, date habituelle de clôture de la saison sportive. Si tel n'était pas le cas, la compétition en resterait à sa phase aller et l'AS Vita Club, qui est en tête, serait sacré championne.
Parlons à présent du nouvel entraîneur pour les éperviers du Togo.
Oui, le Belge Tom Saint-Fiet a déjà officiellement été nommé sélectionneur du Togo. Son adjoint à la tête des éperviers sera le local et ancien mondialiste Jean-Paul Abalo. Tom Saint-Fiet est déjà passé par la Namibie, le Zimbabwe, l'Éthiopie et le Malawi. Sa mission consistera à qualifier l'équipe pour la CAN 2017 et commencera par un match face au Libéria et ce sera le 14 juin.
Au Rwanda, c'est une habitude, l'APR a à nouveau écrasé et remporté le championnat.
Oui, c'est le 15e sacre national du club de l'armée. C'est aussi le 8e en 10 ans pour AFR FC avec un bilan de 15 victoires, 7 nuls, 4 défaites, 43 buts pour et 18 contre. Le club de l'armée rwandaise précède de 3 points l'AS Kigali. La police, elle, termine au 3e avec un retard de 6 points. Étincelle et Isongo sont relégués en 2e division.
Un mot de cyclisme, le Tour d'Italie, le Giro.
Oui, l'Italien Nicolas Buemi de l'équipe Bardiani a enlevé la 10e étape du Tour d'Italie à Forlì devant ses compagnons d'échappée. L'Espagnol Alberto Contador de Tinkoff a gardé le maillot rose de leader au terme de cette étape de plaine marquée par les difficultés de l'Australien Richie Porte, distancé dans le final. Porte, qui occupait la 3e place du classement général à 22 secondes du maillot rose, a perdu 47 secondes sur ses rivaux. Le peloton a franchi hier la ligne avec un retard de 18 secondes. Et pour terminer, Nicolas, la finale de la Conférence Ouest en NBA.
Le premier match de la finale de la Conférence Ouest à domicile en Californie. Golden State s'impose 110-106 face à Houston. À noter que la star Stephen Curry a été l'auteur de 32 points pour les Warriors. Et dans la finale de la Conférence Est, Atlanta est opposé à Cleveland. On remercie pour ce journal des sports Bagassi Koura.
Le
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui, la deuxième partie de notre émission. Merci de votre fidélité. Au Burundi, alors que les manifestations n'ont pas cessé depuis le 26 avril, une délégation des chefs d'État de la CIRGL est attendue cette semaine à Bujumbura pour obtenir un report des élections. Pour une réaction, Idriss Fall a joint l'ancien chef rebelle Léonard Nyangoma, fondateur du CNDD, dont une aile dissidente est aujourd'hui au pouvoir au Burundi.
Depuis l'année passée, nous avions alerté tous les partenaires du Burundi que le contexte politique et sécuritaire et économique ne permettait pas d'organiser des élections libres et transparentes et qu'il fallait absolument un report à travers une transition apaisée.
Nkurunziza est au pouvoir. Si on reporte, est-ce que ça ne risque pas de dépasser les délais légaux de son mandat, par exemple?
Il faut une transition sans Nkurunziza. Nkurunziza est dépassé par les événements. Il est de plus en plus illégitime et même il est déjà illégitime et son mandat se termine le 26 août. Donc il faut une transition consensuelle qui pourrait durer 24 mois par exemple, juste le temps pour restaurer un climat d'apaisement pour que ces centaines de milliers de réfugiés puissent retourner chez eux. Pour désarmer les milices du parti au pouvoir, Imbonerakure, mais aussi pour organiser ces élections.
Mais Nkurunziza, lui, il persiste et signe. Apparemment, il veut aller pour son troisième mandat.
Il veut forcer, mais le peuple ne veut pas de lui parce qu'il n'a plus le droit à un autre mandat. Un chef d'État au Burundi, selon notre constitution, n'a droit qu'à deux mandats, et même les accords d'Arusha. Lui, il a épuisé ses mandats, mais je doute fort s'il persiste et force pour briguer un troisième mandat, c'est qu'il veut se protéger parce qu'il a commis beaucoup de crimes économiques, il a commis beaucoup de crimes humains, donc il a peur d'être rattrapé par la justice et le peuple burundais.
Le Burundi est un pays avec une tradition de rébellion. Est-ce que vous ne craignez pas un retour dans la spirale de la violence?
À la limite, c'est possible. Tout est possible parce que Nkurunziza a déjà fait un coup d'État contre la Constitution. C'est-à-dire que tout est permis aujourd'hui pour bloquer ce processus de coup d'État en cours initié par le président. Ça ne m'étonnerait pas non plus, et je ne le souhaitais pas, que le peuple burundais prenne les armes comme en 93 pour contrecarrer son coup d'État. C'est ainsi que d'ailleurs, la semaine dernière, des officiers avaient tenté de le déposer. Ils exerçaient presque leur droit de contre-coup d'État.
Léonard Nyangoma, ancien chef rebelle burundais et fondateur du CNDD.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan à nouveau sur la crise burundaise. Après le coup d'État avorté, appel au report des élections, une armée divisée face aux manifestations contre le président Nkurunziza, flux croissant de réfugiés vers les pays voisins. Faut-il craindre le pire pour le Burundi? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h15.
En Guinée, c'est aujourd'hui que doit avoir lieu la rencontre entre le président Alpha Condé et le leader de l'opposition, Sélude Alain Diallo. En jeu, là, le calendrier électoral et la présidentielle du 11 octobre prochain. L'opposition accuse toujours le pouvoir de violer un accord de 2013 fixant l'organisation des communales avant la présidentielle. Le président Alpha Condé, lui, s'en tient au chronogramme publié par la CENI qui prévoit la présidentielle en octobre et les communales en 2016. Timothée Donangmaï a recueilli le point de vue du politologue guinéen Alpha Omar Sissavane.
On parle d'élections locales, mais on oublie royalement que pendant la période dans laquelle cette élection devrait se tenir, il y a eu ce qu'on appelle un cas de force majeure, c'est-à-dire un événement imprévisible et indétournable, indépendant de la volonté de chacun et de tous. Cet événement meurtrier, c'est Ebola. Donc, j'estime, à mon humble avis, que si la commission électorale indépendante propose de faire les élections présidentielles avant les élections communales, à mon humble avis, je ne vois pas de contradiction vis-à-vis de la loi. Parce que tout comme fait, la CENI est indépendante. Et dans la CENI, je me permets de vous le rappeler, il y a les représentants légaux des partis politiques qui descendent dans la rue proclamer ceci ou cela.
Où se situe le blocage dans ce cas?
L'opposition veut les élections à la base. ce qu'on appelle les districts, les communes, etc., etc. Donc, l'opposition estime que les responsables qui sont à la base sont d'obédience gouvernementale. Alors, l'opposition exige qu'il y ait des élections où elle pourra avoir aussi des espaces géographiques, ce qui permettrait, à son avis, d'avoir une élection présidentielle crédible.
Est-ce que ce n'est pas une considération légitime?
C'est une considération légitime pour un parti. C'est pourquoi elle est descendue dans la rue. C'est la raison pour laquelle aussi j'estime que le président de la République a reçu le chef de file de l'opposition pour discuter et trouver un terrain d'entente.
Mais apparemment, chacun campe sur ses positions.
Oui, mais moi j'estime que ici c'est la Guinée et le président de la République et le chef de l'opposition. Tout le monde est pour une Guinée paisible. Donc je suis certain qu'ils s'entendront.
Le politologue guinéen Alpha Omar Sy Savané, il était joint à Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso entame aujourd'hui des consultations sur la vie de la nation et de l'État. Pour l'opposition, M. Sassou Nguesso à la tête du pays depuis 31 ans. Ce sont des manœuvres pour modifier la constitution et rester au pouvoir. Idriss Fall a joint l'opposant congolais Mathias Nzon, président de l'Union patriotique pour le renouveau national.
Nous lui avons demandé plutôt un dialogue national sur la gouvernance électorale et l'alternance en 2016. Il n'a jamais répondu. Voilà que, de façon inattendue, il a fait publier un communiqué demandant des consultations des acteurs politiques, de la société civile, des organisations religieuses et même des institutions constitutionnelles. Bon, nous pensons qu'il s'agit d'un manège. Nous ne répondons pas à ça. Le président Denis Sassou Nguesso doit finir son deuxième et dernier mandat. Tout le problème qui se pose au Congo, c'est comment assurer une succession normale et une sortie apaisée pour lui, sans heurts. Dans les consultations, nous les considérons comme un piège et nous, l'opposition congolaise, nous avons proposé un refus à cela.
Pourquoi dites-vous que c'est un piège?
Oui, c'est un piège parce que nous connaissons la manœuvre. Le président Sassou, quand il aura reçu tout le monde, et seulement après, il va dire oui, voilà, la classe politique, les associations de la société civile, les organisations religieuses sont d'accord pour qu'on fasse une réforme des institutions. Et la réforme des institutions, c'est quoi? C'est le changement de la constitution et on va aller au référendum. Or, nous ne voulons pas de cela. Il a fini, il doit partir.
Est-ce que vous croyez que Denis Sassou Nguesso, qui est au pouvoir depuis plus de 30 ans, va accepter de partir comme ça?
Il a fait 32 ans de présidence l'année prochaine. Le Congo n'est pas la propriété de quelqu'un. Le Congo appartient à tous les Congolais. 32 ans, comment ça fait du surplace? Pour qu'il y ait une dynamique de développement, il faut qu'il y ait alternance. La permanence, c'est du surplace. Le Congo ne fait que plonger dans la misère, dans la crise, la maladie, la mortalité, la morbidité. Le résultat d'une mauvaise politique pratiquée par Denis Sassou Nguesso. Pour ça, il faut faire un autre choix.
Et qu'est-ce que vous proposez donc?
Et nous proposons un dialogue national inclusif où la classe politique va s'asseoir, va préparer les conditions d'aller aux élections. Alors, quelles sont les conditions d'aller aux élections? Il faut refaire le recensement administratif pour déterminer un corps électoral fiable. Depuis 2002, on n'a pas de corps électoral. Tout se fait à la merci, au bon vouloir du chef. Alors, il faut dissoudre la commission électorale actuelle qui n'est qu'un instrument aux mains du président de la République. Mettre en place une vraie commission électorale indépendante, composée de façon paritaire. Il faut refaire le découpage électoral. Il faut prendre une loi électorale juste au lieu de la loi unique actuelle qui ne favorise que les candidats du PCD. Voilà pourquoi nous avons une Assemblée nationale qui est plutôt nommée au lieu d'être élue. Si jamais on va à ce dialogue, de façon consensuelle, tout le monde, y compris les partisans de Denis Sassou Nguesso, nous aurons décidé sur ce qui est acceptable par tous. Et nous irons aux élections. Mais ce qu'ils nous proposent là, c'est encore la malice habituelle, la ruse, nous ne pouvons pas l'accepter.
L'opposant congolais Mathias Nzon, il était joint à Brazzaville.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
En Irak, nous vous en parlions dans le journal, la prise de la ville de Ramadi par le groupe État islamique constitue un sérieux revers pour le gouvernement irakien, mais aussi pour la stratégie américaine dans le pays. Timothée Donangmaï a contacté Walid Fares, conseiller en contre-terrorisme auprès du Congrès américain.
Il y a eu plusieurs fautes stratégiques qui ont été commises de la part, bien sûr, du gouvernement irakien, mais aussi de la coalition internationale. La première faute a été de ne pas constituer une force sunnite, modérée, arabe, qui aurait des brigades, et non pas seulement des milices, des tribus, Et ces brigades auraient été les forces nécessaires pour repousser les forces djihadistes. Parce que Ramadi se trouve dans une zone sunnite. Et donc, quand on a envoyé des régiments à majorité chiite, la population a été frustrée. Et donc, c'est la population qui a permis, en fin de compte, à ces forces-là, à ces forces de l'État islamique, de se déployer sans beaucoup de résistance. Bien sûr, Daesh a exécuté un grand nombre des membres des tribus arabes sunnites qui ont collaboré avec le gouvernement. La deuxième faute a été de ne pas coordonner avec les puissances arabes régionales, la Jordanie, la Saoudie, l'Égypte et toutes ces forces, qui, elles, auraient pu soutenir un mouvement dans les zones sunnites de l'Irak, comme l'Iran est en train de soutenir les chiites dans les zones chiites de l'Irak. Donc, je pense qu'il va y avoir maintenant une revue exceptionnelle à Washington et dans les capitales arabes pour pouvoir prévoir les mouvements futurs de l'EI.
Avec ce revers, le gouvernement irakien fait appel aux milices chiites, notamment, pour lancer l'offensive. Comment voyez-vous la suite?
Moi, je pense que lancer les milices chiites à plein fouet contre l'État islamique va créer encore des heurts sectaires entre les sunnites et les chiites. Et ceux qui vont en fait profiter vont être les milices djihadistes. Il faut ou bien réorganiser les brigades de l'armée irakienne régulière, ou bien donc demander l'aide à des armées arabes régulières qui peuvent contrer ce mouvement. Mais lancer des milices chiites contre des milices sunnites ne serait pas la solution, à mon avis.
Comment voyez-vous le rôle de l'Iran dans tout cela?
Eh bien, le rôle de l'Iran, dès le début, n'a pas été un rôle tout à fait positif. Les zones sunnites ont été supprimées avant la montée de l'État islamique. Et maintenant, si l'Iran va faire rentrer ses propres troupes ou des troupes auxiliaires, cela va encore créer des problèmes sectaires. Il faut essayer de ne pas avoir des problèmes sectaires en Iran.
Le professeur Walid Fares.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, dans Universel. Au menu, International Music, Comédie, Country Music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, La Voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
To your curves like little erases. Girl, your funky little backbeats got me. Feel like I'm tipsy and I ain't even had a drink. I wanna kiss you in the parking lot, under the moonlight. Kiss you running red lights. Baby, set the mood right. Just like everything you're doing to me right now is making me crazy. I wanna kiss you on the dance floor. Kiss you like a let's go. Come on, baby, let me hear you say, oh. Touch your toes, girl, you know you're just showing off. That little tattoo on your tan line, oh my. Pretty little butterfly, what else have you got to hide? I wanna kiss you in the parking lot, under the moonlight. Kiss you running red lights, baby, set the mood right. Just like everything you're doing to me right now is making me crazy. I wanna kiss you on the dance floor, kiss you like a let's go. Come on, baby, let me hear you say.
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson. Nicolas Pinault à la présentation. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Avant de se quitter, saluons Amadouba au Mali et Samuel Sami Issaka. C'est à Ouvira, dans le Sud Kivu, en RDC. Comme retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com.
au cœur de l'info.